Alors qu'il y a des besoins industriels. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est porter le débat public devant le conseil régional, parce que moi, il y en a certains. Je suis militant CGT, je suis de gauche. Mais putain, j'embotterai le cul à quelques-uns de gauche. Parce que moi, je voudrais qu'on me redéfinisse la gauche, quand même. Qu'on me dise qu'est-ce que c'est, parce que il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Je peux vous dire, moi, qu'un responsable au niveau Gironde, d'un haut au conseil général élevé, me convoque un jour en me disant, expliquez-moi ce que... Alors, je lui ai expliqué. Il me dit, restez du temps ou de l'ancien procédé. Alors, moi-même, je dis, putain, t'es con. Bon, mais je lui ai pas dit. Mais, enfin, après, Curculoz le voit, il lui a dit, t'as vu, Kourou ? Oui, rien de nouveau à l'ouest. Alors, moi, j'ai, comme disent les jeunes, j'ai les boules envers bien des élus, parce que c'est à nous de leur botter le derrière aussi. Je sais que, bon, on ne m'aime pas, mais ils s'en foutent, c'est qu'un citoyen. Alors, c'est vrai, il y a toute une série de choses. L'autre jour, dans le sud-ouest, un journal régional, il n'y a que celui-là. Dans le sud-ouest, il y a un leader du diesel, non, du diester. Mais voilà, on a des usines qui se font à Bassens, où on va faire, et on fait déjà des comptes. On fait déjà des comptes. Au total, selon Philippe Thioux-Borde, le diester fait gagner 1,5 milliard par an à la balance de paiement française, avec le diester, et tout ce qu'on fait. Alors que, en me plongeant, moi, dans des vieux bouquins, et c'est un scientifique aussi de Sophie Antiapolis, du CNRS Sophie Antiapolis, qui m'a fait passer un livre qui était tamponné de l'Université de Bordeaux, c'est pour ça que je le cite, et c'est pas n'importe quoi. En 1906, les Allemands sortaient de la colophane du gaz. 900 litres de gaz d'un kilo de colophane. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est... Alors, ce n'est pas le docteur Schweitzer, mais c'est un homme, Victor Schweitzer, qui était un chercheur allemand. En 1941, à Pauillac, on a extrait de l'essence térébenthine, on a mis au point un procédé qui permettait de transformer la résine en un produit aussi valable que le cocasse qui venait du pétrole. Et souvenez-vous, c'est à ce moment-là qu'on a rapatrié les résiniers prisonniers. Parce que les Allemands récupéraient la résine, sortaient l'essence térébenthine, et c'est la réalité. Alors moi, c'est Sargos qui l'écrit en son livre. Donc vous avez entendu parler de Sargos, c'est pas n'importe qui. C'était l'ancien responsable, c'est un gros propriétaire des civiculteurs. Donc il y a des possibilités. Il y en a un qui m'a dit, mais tu veux pas remplacer le manque de... par la résine. Bon, je lui aurais botté le derrière. C'est jamais ça que j'ai dit. Mais pourquoi on ne participerait pas à faire, en plus du reste, du carburant avec de la résine en sortant du gaz, puisqu'on va en venir scientifiquement. Si vous avez suivi, on est en train d'étudier actuellement comment, avec les déchets de papeterie, on ferait du carburant. Alors, je veux bien, moi, qu'on fasse grand en coupant du bois, en sortant du bois. Mais n'oubliez pas que couper le bois, vous coupez la forêt, c'est le poumon de la planète. Alors moi, quand je vois des écolos qui disent « il faut des maisons en bois, il faut des trucs », il ne faut pas oublier qu'on coupe quand on coupe un pin, il ne repousse pas du jour au lendemain. Or, le pin, il absorbe le gaz carbonique et il rejette de l'oxygène. Alors, moi, il me semble que c'est plus écologique, par exemple, de gémer pendant 20 ans un pin auquel on pourrait sortir du carburant, de couper le pin. Et c'est mon point de vue. Alors, tout ça, moi, je trouve que ce serait très bon si on pouvait en débattre avec les scientifiques et avec des gars qui tiennent la route et qui sont prêts. J'en connais certains, ils sont prêts à venir au débat. Et c'est aussi une chose qui est nouvelle. Parce que ça fait un an et demi que des industriels viennent me voir. les industriels se trouvent avec un problème, c'est d'où c'est que vient le produit, le suivi des produits. De plus en plus, au niveau européen, on exige des trucs de produits. Alors, avec la personne, c'est-à-dire c'était la directrice du laboratoire OLIST, elle nous dit, voilà, moi, j'ai un fournisseur au Portugal, garantie européenne et tout ça. Ben, j'ai dit, mais attendez, c'est la résine bio. Oui, oui, la résine bio, moi, je ne pense pas qu'au Portugal, on continue à résiner à chaud. On doit résiner à l'acide. Et d'après ce que moi, j'ai pu lire dans les livres, c'est que quand on gémit à l'acide, il fallait surtout laver la résine parce que ça faisait cristalliser la cellophane. Ça portait atteinte à la cellophane. Donc, avant de la distiller, on a enlevé toute trace d'acide. Mais je n'ai jamais lu que ça portait atteinte à l'essence térébenthine. Alors, je lui dis, vous savez, vous pouvez très bien avoir des essences térébenthines qui correspondent aux normes que vous... Mais elle est faite, gémage à l'acide. Parce que moi, ça m'étonnerait qu'au Portugal, on gémage encore à chaud. Elle nous dit, attendez. Elle nous dit, c'était à l'université qu'on avait la réunion. Elle nous dit, attendez, je vais téléphoner. Et le téléphone, c'est au sud du Portugal où se trouve l'usine qui lui fournit le truc. Alors, il y avait un gars qui parlait français là-bas. Il lui dit, de quelle façon vous résinez pour nous fournir l'essence térébenthine? Oh, le gars lui dit, mais vous savez, nous, on reçoit la résine, on fait que distiller. Hein? Je lui dis, voilà. Alors, voilà le problème là aussi. Quand vous voyez des gens qui vous affichent des grands diplômes, des trucs et tout ça, il faudrait approfondir là un petit peu et voir. Ils la savent là. On ne peut pas être imbécile, hein. Mais eh bien oui, ça donne des couvertures. Donc tout ça, ce sont des décisions politiques. Et moi, qu'on ne vienne pas me dire maintenant, quand on me dit que quand ça atteindra 100 $ le litre de pétrole, on pourra sortir un carburant rentable, qu'on en est à 130 $ et puis on ne dit plus rien. Mais alors, il y a des choses quand même, c'est une décision. Et cette décision, moi je trouve que nos élus politiques dans le coin, et madame est nouvelle élue, hein, je souhaite qu'elle nous retienne, hein, qu'elle nous soutienne, mais actuellement, pour la relance du gémage, j'en connais pas un, que ce soit au niveau départemental ou régional. J'ai connu, comme je vous ai dit, Curculos, Jean Barrière et Marcadet, mais actuellement, moi personnellement, j'en connais pas un. Et moi, je voudrais un petit peu qu'il se remue cela. Parce que s'il tape le poing sur la table, s'il demande ses débats, peut-être les choses pourront avancer.
À ce point du débat, beaucoup de questions sont posées. Toutes les questions techniques sur les questions de la production sont vraiment bien affinées et je pense qu'on n'aurait aucun souci en recherchant les appuis à pouvoir développer. La question, elle est politique. Comment, à un moment où notre société est bloquée, où la machine économique est bloquée, où on nie le travail humain et on spécule avec des fonds de pension et on investit là où ça est rentable à deux chiffres très rapidement, comment on va pouvoir faire basculer ce mouvement, cette ascension vers toujours plus d'argent au détriment des hommes? Donc la notion de ce lancement, de cet appel est important. Il faut qu'on y travaille tous ensemble. On espère pouvoir, je pense qu'on essaiera de trouver les relais dans la presse, dans les élus, parce que certains peuvent aussi se bouger. Tout dépend du rapport des forces. Et comment aussi dans ce débat, mais après je passe la parole aux personnes qui ont demandé, comment dans ce débat les travailleurs se réapproprient, les travailleurs et les citoyens se réapproprient leurs outils de production, le développement de la société. Et là, c'est vraiment une question de rapport de force. Parce que dans mon engagement de communiste, je crois que le plus bel exemple pour moi, mais il y en a peut-être d'autres, c'est comment on a pu s'approprier, par exemple, la sécurité sociale, comment on a fait en sorte que la force de travail et les richesses produites soit réinvesti dans l'intérêt de tous pour la santé, et comment nous, à un moment de l'histoire, on a prouvé que nous, en tant que salariés, en tant que travailleurs, en tant que scientifiques, en tant que professionnels d'autres, d'autres professions que les salariés, on a pu tous ensemble œuvrer et monter un système qui protège encore la population. Donc, il y a de l'espoir. Pour l'instant, la situation, elle est difficile, mais tout dépend des forces qu'on pourra rassembler. Et donc, le débat et l'appel est lancé. Monsieur, vous vouliez prendre la parole ?
Oui, juste, j'avais deux ou trois questions à vous poser, Raymond, mais avant ça, je voudrais savoir si vous avez des informations quant à l'usine Escobois Saint-Symphorien qui est en arrêt depuis deux mois et dont on annonce la réouverture possible pour octobre. Et là, on sait que ça a été annoncé par Gascogne comme la grande unité de sillage ultra moderne, etc., qui devait révolutionner le sillage sur le massif. Et en fait, aujourd'hui, quelques années plus tard, après de gros investissements réalisés, enfin consentis par la région Aquitaine, par le département de la Gironde, ben, l'unité est en arrêt. Et il paraît, mais ça, je vous dis, il paraît, que Gascogne s'interroge sur la nécessité de rouvrir le site. Alors, je ne sais pas si vous avez des informations.
Excuse-moi, Gérard, mais j'en sais autant que toi. J'ai entendu dire à la presse qu'il y avait un incident technique dans l'entreprise et que le personnel était arrêté pour X jours. Depuis, je n'en sais rien. Ce que j'ai retenu quand même, c'est que cette usine grandiose, modèle européen, a été construite avec l'argent de la collectivité française et européenne. Hein, les fonds européens y sont venus. Et bon, je n'en veux pas aux copains du Conseil régional, mais ils ont voté aussi ces choses-là. Et ça tourne au vinaigre, finalement. Escobois ou la société forestière de Gascogne, puisque c'est en commun tout ça, finalement, ils décideront du sort de l'entreprise, même si elle a coûté cher à tout le monde, c'est eux qui décideront. Ils fermeront une de ces quatre matins s'ils ont trouvé une place ailleurs. Peut-être iront-ils à Chine, où y sont-ils ? Je n'en sais rien. Mais sur le site de Saint-Symphorien, je sais que ça coûte cher à la collectivité, je sais que ça ne marche pas. Et pourtant, l'avenir était radieux lorsque ça a été établi. Mais tout ça, il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est l'argent au bout du compte, hein. C'est l'argent qui prime. Je peux vous citer mille et un exemples. Moi, j'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai milité dans beaucoup de choses, d'institutions, même au niveau national. Je me souviens d'une histoire de poisson au Conseil économique et social national. Le poisson, le lieu noir, pêché à Quimper, ou entreposé à Quimper, acheté à l'époque, il y a un peu plus de 20 ans, à 90 francs le kilo, il faisait un circuit monumental. L'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., pour revenir après des traitements dans tous ces pays nommés, il revenait en France sous forme de saumon fumé à 4000 balles le kilo. Et ça a été dit en comité restreint, commission spécialisée, et avec des informations données par les professionnels. Évidemment, il n'y avait pas de procès-verbaux publiés, mais ce serait bon que tout le monde le sache, ça. Regardez, l'autre jour, je discute avec un maïsculteur qui s'est mis à faire des haricots verts. Je fais deux récoltes par an. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous en faites? Vous vendez ça à une conserverie française? Non, c'est des Espagnols qui viennent le chercher et ils nous les ramènent en boîte. Bon, très bien, ça va. Il paraît que c'est l'Europe, que c'est la mondialisation et tout. Mais au bout du compte, c'est le fric. C'est le fric qui commande, voilà. Et moi, je trouve que nous ne nous occupons pas assez, nous tous là, hein, on est tous responsables, assez d'économie et assez de politique. Parce que si on intervenait dans l'arène, on obligerait ceux qui prêchent pour le gain rapide, on les obligerait à parler, à dire des choses qu'ils ont l'habitude de garder secrètes. Évidemment, en ne sachant pas tous ces trucs-là. Le maïs, c'est le même tabac. Le bois, c'est le même tabac. Le bois brut exploité dans notre forêt, ce sont les étrangers qui viennent le chercher, qui l'exploitent et nous ramènent en meubles ou en autres produits manufacturés. Le maïs, c'est la même chose. Le maïsculteur m'a raconté aussi sur le maïs, c'est pareil, comme pour les haricots verts. Il le vend comme ça, il va en Espagne et il revient après en sous-produit. Alors, quand est-ce qu'on aura terminé avec cette politique économique dominée par le fric? On ferait bien de s'interroger tous là. Hein. C'est pour ça que à la rencontre d'Origne, il nous est venu, en écoutant les gens, il nous est venu cette idée d'appel au débat public sur un problème concret, mais un problème parmi les autres. Hein. La résine, c'est un problème parmi les autres. Hein. Et ils se ressemblent beaucoup, hein, finalement, au bout du rouleau. Hein. Si vous grattez, vous trouvez encore un problème d'argent, de rapport rapide, etc.
Nicole, tu souhaitais intervenir ?
Pas longtemps, mais aussi pour intervenir dans le suivi de tout ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on dit les politiques, mais quelle politique ? Voilà, Raymond le disait. De la même façon qu'il y a eu le plan d'Avignon pour ce qui concerne la métallurgie, qu'il y a eu les politiques, par exemple, enfin c'est soir, mais je me souviens de ça. Par exemple, en Camargue, comme pour les haricots, le riz de Camargue, il part à l'étranger, il revient sous forme de boîte, alors que la Camargue, c'est le riz, quoi. Et donc, c'est plus possible. Les chantiers navals, par exemple, de la Ciotat, c'était toute une ville qui vivait de ça. Bon, le plan d'Avignon, allait plus de chantiers navals. Est-ce qu'on va encore, pendant longtemps, supporter tout ça? Alors, c'est politique, oui, mais quelle politique? Quand on va voter, là, n'importe quelles élections, il faut se prononcer sur qui a fait quoi. Qu'est-ce qu'il a proposé, celui-là, pour la politique de la France? Qu'est-ce qu'il a proposé pour les débouchés? Qu'est-ce qu'ils ont proposé pour le gémage, etc. C'est ça. Alors, la politique, quelquefois, pour certains, c'est un gros mot. On fait une banalisation, tout le monde est gentil, etc. Mais l'Europe, elle est politique, elle est politique à droite ou elle est politique à gauche. Et pour tout un chacun, on sait très bien ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'on va continuer à travailler pour les fonds de pension, les industriels moi, on me citait hier un industriel qui avait acheté un terrain à 1 million d'euros, qui allait construire une villa dessus à je ne sais combien de millions d'euros, qui avait tant de voitures, etc. Mais cet argent, où ils le prennent, hein, pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont au chômage. Il y a des usines qui ferment, qui s'en vont à l'étranger. Et puis, eux, par contre, ils sont indemnes. À Pontonx, actuellement, Sony, ils sont venus avec l'argent de la commune, de la même façon que le Conseil général crée des syndicats mixtes pour l'industrialisation. Par exemple, pour le canton de Gabarit, Sort-la-Brite, il y a des syndicats mixtes. On donne de l'argent aux entreprises pour faire l'assainissement, des lotissements pour qu'elles s'installent. Et puis, ils s'en vont au bout de tant d'années en ayant bien exploité les gens qui travaillaient d'abord. Ils les licencient petit à petit d'une façon telle qu'ils n'ont pas d'indemnité de licenciement parce que c'est des licenciements économiques déguisés. Et puis d'un seul coup, ça ferme, ils ne sont plus là, ils ne payent plus les loyers à la communauté des communes ou au conseil général. Et puis voilà. Alors on dit, on ne peut rien. Moi, j'ai interrogé, on m'a dit, juridiquement, on ne peut rien. Mais comment c'est possible, ça? Donc moi, si j'avais un message à faire passer, outre le fait que je suis tout à fait d'accord, moi, pour cet appel, et je m'impliquerai même au Conseil général, hein, puisqu'on vient de créer une SEM qui est pour la recherche des énergies renouvelables. Donc il y a 3 projets actuellement. C'est des projets avec le bois, pour transformer le bois ou les déchets verts ou le bois en plaquettes, pour les transformer en énergie. Et on nous cite... tant de production va satisfaire 1000 personnes, 1000 foyers par exemple, comme l'énergie en électricité ou autre. Donc pourquoi pas, puisqu'on fait ça, pourquoi pas l'inclure dans ce projet-là, hein. Et deuxièmement, bon, ben j'ai perdu un peu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais enfin bon, moi je suis tout à fait d'accord pour aller dans le sillage de mon ami André Curculos et Marc Adet au Conseil Général, bien que nous les communistes, aujourd'hui nous ne sommes plus que deux, et en plus, bon, ben, c'est vrai que les circonstances ont fait que j'ai été la seule élue ici, mais croyez-moi, il faut peut-être aujourd'hui se satisfaire de cette situation juste aujourd'hui, mais pour demain aller beaucoup plus loin pour aider et sauver l'industrie du gémage. Hein, voilà.
Non, moi je voudrais, c'est d'abord, c'est sur la position des sylviculteurs. Parce qu'on sait très bien que la filière au bois, c'est très important de donner à cette filière, parce qu'il y a le gémage, ça a été expliqué, mais il y a aussi tout le travail du bois, tout ce qu'on peut faire autour avant de le couper. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai coupé des pins au bout de 35 ans même. Et que s'il y avait eu le gémage à cette époque-là, à ce moment où ça s'est fait, ben, je n'aurais certainement pas coupé les pins, parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Et l'autre point que je voudrais apporter, c'est sur les élus, et je suis content d'entendre parler l'élu, c'est que, mais en même temps, notre rôle, c'est de continuer à pousser et à booster pour rappeler de temps en temps qu'on est là, présent, quoi. Et parce que ça permet, c'est pas pour ennuyer, mais c'est pour apporter du poids, pour essayer d'apporter le maximum de poids à ce que tu vas faire. Parce que sinon, on le voit partout où on laisse les élus un peu seuls, et bien malheureusement, il manque des moyens. Ce n'est pas pour soutenir, c'est pas mais c'est simplement que parce qu'on a aussi notre rôle à jouer. S'il y a des élus, c'est que nous avons voté. On a bien ou mal, mais on a voté.
Deux interventions, Bernard et Claude.
Oui, juste quelques remarques pour appuyer un peu ce qui vient d'être dit dans la dernière heure. Ce qui est proposé d'autant plus nécessaire, je dirais indispensable, qu'on rentre dans une période de pénurie d'énergie. Et que de ce point de vue, on va être face à la nécessité impérative de relocaliser les productions. Parce qu'on partait des bois, ils partent en Espagne, ils reviennent, ils repartent. Vous vous rendez compte de la quantité d'énergie qui est dépensée ? Savez-vous qu'un pot de yaourt, il fait en moyenne 700 km ? Savez-vous qu'un accident de camion qui est survenu à Poitiers, deux camions se télescopent, un qui descendait du Pays-Bas, un qui montait d'Espagne. Point commun, ils transportaient tous les deux des tomates. Bon. On est quand même dans une espèce d'absurdité. Et dans le cadre de cette mondialisation, on a quand même un problème majeur. Quand l'Europe, et en particulier EADS, exporte un Airbus en Chine, on exporte une heure de temps de travail qui vaut 100 $. La Chine, il faut qu'elle nous les paye, ces 100 $. Alors, on importe de Chine 100 $ de t-shirt. Seulement, dans un cas, on a exporté une heure de temps de travail et on en a importé 30. On a un problème. On ne peut pas continuer à viguer dans ce monde en tempête avec des bateaux, avec les hublots sans arrêt ouverts. Il va falloir qu'on réapprenne à réintroduire de la régulation dans tout ça. Sinon, on va à la cata. C'est mon point de vue. Et il faut commencer à réfléchir, à relocaliser des productions, à manger... Y compris, je pense aussi aux cultures maraîchères, faut manger local. Faut manger local. Bon, c'est ce que Daniel fait en dehors de ça. Hein. On mange local, nous, maintenant. Mais on va manger local, nous, totalement. Mais on a vrai problème quand on voit les marchandises, comment elles se baladent d'un bout d'un continent à un autre. Tout ça, le coût du transport, je veux dire, il est anormalement bas. Il est anormalement bas. Et la situation des travailleurs pose problème. Donc, redévelopper effectivement la forêt, c'est nécessaire pour diminuer les coûts énergétiques de tous ces déplacements.
Oui, pour répondre concernant les sylviculteurs. Je crois que le syndicat des sylviculteurs, ils ont été divisés en deux. Parce que dès le début, le professeur Martre, qui était le président des sylviculteurs, a soutenu. Il est venu même à une conférence que je participais au Bouco, ouais, organisée par la CGT. Quand même, il est venu débattre et soutenir l'idée. Par contre, moi, ce qui m'a fiché les boules un peu, c'est que quand il parlait dans la presse, il n'en parlait pas du tout. Alors qu'il venait discuter avec nous et il soutenait. Et j'ai été surpris l'autre jour, il y a un mois et demi, deux mois, à Dax. J'ai été invité dans un projet Comenus, c'est-à-dire il y avait un rassemblement sur les résineux de 6 collèges européens. Et on m'avait invité pour parler du gémage là et tout ça. Et il y avait le syndicat des sylviculteurs représenté par, pas le président, mais le secrétaire, comment il s'appelle, Pinaudeau. Alors lui, on m'avait toujours dit qu'il était farouchement contre le gémage. Alors quand il y a eu la réunion préparatoire, on m'a demandé qu'est-ce que j'allais expliquer au cours des conférences. Et puis quand j'ai fini, Pinaudeau demande la parole, je me dis ça y est, ça va quand frais. Et j'y étais prêt. Eh bien, j'ai été surpris de dire qu'en effet, le gémage allait être relancé, mais avec un nouveau procédé et tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais dans les coulisses. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et voilà, officiellement, ils l'ont dit officiellement au cours de réunion, Martre et Pinaudeau pense que le gémage va se relancer. Maintenant, si on connaît, alors je ne suis pas un invité là-dedans, moi, c'est le syndicat des sylviculteurs. Voilà, j'en sais pas plus loin.
J'ajoute une précision à propos de la propriété forestière. Il faut savoir qu'environ 10% des propriétaires de pins maritimes de Gascogne. Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Je n'en sais rien, je me fais la photo, c'est tout. Mais dans la mesure où la voix populaire s'exprime sur ces problèmes, c'est ce que l'on souhaite, nous. Il y aura des modifications. L'état d'esprit changera. Il y en a déjà à l'amorce. Claude l'a rappelé. On a eu un débat public en présence du président des sylviculteurs, M. le professeur Martre, qui a abondé dans ce sens. On ne s'est pas contredit. On voulait que le gémage redevienne une activité dans notre massif. Mais il y a de cela, si je ne me trompe, 4 ans. Et on n'en parle plus. Mais dans la mesure où on interviendrait, comme on l'a fait dans la petite rencontre d'Origne, on va peut-être le faire ici, c'est votre avis sans doute. Et si on le fait ailleurs, dans tout le massif forestier, je pense que les esprits évolueront, qu'ils ne resteront pas figés et qu'on finira par être entendu par les décideurs politiques.
Bon, il n'y aura pas de conclusion. Mais comment allons-nous concrétiser ces quelques temps passés ensemble où on a échangé des choses très importantes? Et est-ce que vous seriez... est-ce que le texte de l'appel d'Origne pourrait être adopté? Est-ce que vous souhaitez laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous le diffuser? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une motion en direction des journalistes et de la presse? Est-ce que vous avez d'autres idées?
Le texte sur... Bon, alors à Origne, le texte a été adopté à main levée. Donc, ce qui peut... énerve ce truc. Hein. Bon. Alors, ce serait appel de sort, sensibilisé par les témoignages d'anciens résignés, informé premièrement des besoins des industries françaises et européennes, deuxièmement des découvertes des méthodes de production, troisièmement du potentiel productif de la forêt de Gascogne, les participants à la rencontre d'Aurigne, organisée, alors vous mettez par de la rencontre de Sorre, organisée par la section, vous mettez là, du Parti communiste, demande l'organisation d'un débat public en vue d'envisager tous les moyens existants pour promouvoir la production de résine en forêt de Gascogne. Voilà le projet qui a été adopté à Aurigne, et c'est un truc comme ça qui a été aussi décidé par l'association NEPVA au bord du bassin d'Arcachon, qui a été adressé au conseil général, conseil régional, et voilà le projet qui a été adopté à Aurigne. C'est à vous à savoir si vous l'adoptez à main levée, et qui devrait être envoyé par les organisateurs du débat.
Oui, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, je n'étais absolument pas au courant de tout cela. Oui, pour conclure, j'ai à dire à propos de cela que je pense que les forêts de pins sont des sports de combat.
Est-ce que nous pouvons aussi laisser à votre disposition une fiche où vous pouvez aussi inscrire vos coordonnées, où on peut vous passer le texte. J'espère qu'il sera que vous le retrouverez dans le journal L'Humanité. Non, mais je n'entends pas. J'espère que le texte pourra être retrouvé dans le journal L'Humanité. Nous ferons en sorte qu'il soit publié dans la Terre, mais enfin nous veillerons qu'il soit dans l'Humain. Ensuite, voilà, donc après, chacun est un petit réseau pour diffuser l'information et convaincre ses voisins, sa famille, ses enfants, etc. Voilà, merci à tous et bon festival.